Après le dîner, David reconnut que l'almanach aurait dû être composé en 8 jours. Puis, en apprenant que les Cointet en préparaient un semblable, il vint au secours de sa femme. Il fit interrompre à Kolb la vente des feuilles d'images et dirigea tout dans son atelier. Il mit en train lui-même une forme que Kolb dut tirer avec Marion, tandis que lui-même tira l'autre avec Cérizé, en surveillant les impressions en encre de diverses couleurs. Chaque couleur exige une impression séparée. 4 encres différentes veulent donc 4 coups de presse. Imprimé 4 fois pour une, l'almanach des bergers coûte alors tant à établir qu'il se fabrique exclusivement dans les ateliers de province où la manœuvre et les intérêts du capital engagé dans l'imprimerie sont presque nuls. Ce produit, quelque grossi qu'il soit, est donc interdit aux imprimeries d'où sortent de beaux ouvrages. Pour la première fois depuis la retraite du vieux Séchard, on vit alors 2 presses roulant dans ce vieil atelier. Quoique l'almanach fût, dans son genre, un chef-d'œuvre, néanmoins, elle fut obligée de le donner à 2 liards, car les frères Cointet donnèrent le leur à 3 centimes au colporteur. Elle fit ses frais avec le colportage, elle gagna sur les ventes directement faites par Kolb, mais sa spéculation fut manquée. En se voyant devenu l'objet de la défiance de sa belle patronne, Cérizet se posa dans son fort intérieur en adversaire et il se dit « Tu me soupçonnes, je me vengerai. » Le gamin de Paris est ainsi fait. Cérizet accepta donc de messieurs Cointet frères des émoluments évidemment trop forts pour la lecture des épreuves qu'il allait chercher à leur bureau tous les soirs et qu'il leur rendait tous les matins. En causant tous les jours davantage avec eux, il se familiarisa, finit par apercevoir la possibilité de se libérer du service militaire qu'on lui présentait comme appât. Et loin d'avoir à le corrompre, les Cointet entendirent de lui les premiers mots relativement à l'espionnage et à l'exploitation du secret que cherchait David. Inquiète en voyant combien elle devait peu compter sur Cérizé et dans la possibilité de trouver un autre Kolb, Ève résolut de renvoyer l'unique compositeur en qui sa seconde vue de femme aimante lui fit voir un traître. Et comme c'était la mort de son imprimerie, elle prit une résolution virile. Elle pria par une lettre M. Métivier, le correspondant de David Séchard, des Cointet et de presque tous les fabricants de papier du département, de faire mettre dans le journal de la librairie à Paris l'annonce suivante. « ACD, une imprimerie en pleine activité, matériel et brevet, située à Angoulême, s'adresser pour les conditions à M. Métivier, rue Serpente. » Après avoir lu le numéro du journal où se trouvait cette annonce, les Cointet se dirent « Cette petite femme ne manque pas de tête. Il est temps de nous rendre maître de son imprimerie en lui donnant de quoi vivre. Autrement, nous pourrions rencontrer un adversaire dans le successeur de David, et notre intérêt est de toujours avoir un œil dans cet atelier. » Mus par cette pensée, les frères Cointet vinrent parler à David Séchard. Ève, à qui les 2 frères s'adressèrent, éprouva la plus vive joie en voyant le rapide effet de sa ruse, car ils ne lui cachèrent pas leur dessein de proposer à M. Séchard de faire des impressions à leur compte. Ils étaient encombrés et leur presse ne pouvait suffire à leurs travaux. Ils avaient demandé les ouvriers à Bordeaux et se faisaient fort d'occuper les 3 presses de David. « Messieurs, dit-elle aux 2 frères Cointet pendant que Cérizé allait avertir David de la visite de ses confrères, mon mari a connu chez messieurs Didot d'excellents ouvriers, probes et actifs. Il se choisira sans doute un successeur parmi les meilleurs. Ne vaut-il pas mieux vendre son établissement 20 000 francs qui nous donneront 1 000 francs de rente que de perdre 1 000 francs par an au métier que vous nous faites faire? Pourquoi nous avoir envié la pauvre petite spéculation de notre almanach qui d'ailleurs appartenait à cette imprimerie? Et pourquoi, madame, ne pas nous en avoir prévenu? Nous ne serions pas allés sur vos brisées, dit gracieusement celui des 2 frères qu'on appelait le grand Cointet. « Allons donc, messieurs, vous n'avez commencé votre almanach après avoir appris par Cérizé que je faisais le mien. » En disant ces paroles vivement, elle regarda celui qu'on appelait le grand Cointet et lui fit baisser les yeux. Elle acquit ainsi la preuve de la trahison de Cérizé. Ce Cointet, le directeur de la papeterie et des affaires, était beaucoup plus habile commerçant que son frère Jean, qui conduisait d'ailleurs l'imprimerie avec une grande intelligence, mais dont la capacité pouvait se comparer à celle d'un colonel. Tandis que Boniface était un général auquel Jean laissait le commandement en chef. Boniface, homme sec et maigre, à figure jaune comme un cierge et marbré de plaques rouges, à bouche serrée, et dont les yeux avaient de la ressemblance avec ceux des chats, ne s'emportait jamais. Il écoutait avec le calme d'un dévot les plus grosses injures et répondait d'une voix douce. Il allait à la messe, à confesse et communier. Il cachait sous ses manières patelines, sous un extérieur presque mou, la ténacité, l'ambition du prêtre et l'avidité du négociant dévoré par la soif des richesses et des honneurs. Dès 1820, Le grand Cointet voulait tout ce que la bourgeoisie a fini par obtenir à la Révolution de 1830. Plein de haine contre l'aristocratie, indifférent en matière de religion, il était dévot comme Bonaparte fut montagnard. Son épine dorsale fléchissait avec une merveilleuse flexibilité devant la noblesse et l'administration, pour lesquelles il se faisait petit, humble et complaisant. Enfin, pour peindre cet homme par un trait dont la valeur sera bien appréciée par des gens habitués à traiter les affaires, il portait des conserves à verre bleu, à l'aide desquelles il cachait son regard, sous prétexte de préserver sa vue de l'éclatante réverbération de la lumière dans une ville où la terre, où les constructions sont blanches, et où l'intensité du jour est augmentée par la grande élévation du sol. Quoique sa taille ne fût qu'un peu au-dessus de la moyenne, il paraissait grand à cause de sa maigreur qui annonçait une nature accablée de travail, une pensée en continuelle fermentation. Sa physionomie jésuitique était complétée par une chevelure plate, grise, longue, taillée à la façon de celle des ecclésiastiques, et par son vêtement, qui depuis 7 ans se composait d'un pantalon noir, de bas noirs, d'un gilet noir et d'une lévite, le nom méridional d'une redingote, en drap couleur marron. On l'appelait le grand Cointet pour le distinguer de son frère qu'on nommait le gros Cointet, en exprimant ainsi le contraste qui existait autant entre la taille qu'entre les capacités des deux frères, également redoutable d'ailleurs. En effet, Jean Cointet, bon gros garçon à face flamande, bruni par le soleil de l'Angoumois, petit et court, pansu comme Sancho, le sourire sur les lèvres, les épaules épaisses, produisait une opposition frappante avec son aîné. Jean ne différait pas seulement de physionomie et d'intelligence avec son frère. Il professait des opinions presque libérales. Il était centre-gauche, n'allait à la messe que les dimanches et s'entendait à merveille avec les commerçants libéraux. Quelques négociants de l'Houmeau prétendaient que cette divergence d'opinion était un jeu joué par les deux frères. Le grand Cointet exploitait avec habileté l'apparente bonhomie de son frère. Il se servait de Jean comme d'une massue. Jean se chargeait des paroles dures, des exécutions qui répugnaient à la mansuétude de son frère. Jean avait le département des colères, il s'emportait. Il laissait échapper des propositions inacceptables qui rendaient celles de son frère plus douces. Ils arrivaient ainsi, tôt ou tard, à leur fin. Ève, avec le tact particulier aux femmes, eut bientôt deviné le caractère des deux frères. Aussi resta-t-elle sur ses gardes en présence d'adversaires si dangereux. David, déjà mis au fait par sa femme, écouta d'un air profondément distrait les propositions de ses ennemis. « Entendez-vous avec ma femme ?» dit-il aux deux Cointet en sortant du cabinet vitré pour retourner dans son petit laboratoire. « Elle est plus au fait de mon imprimerie que je ne le suis moi-même. Je m'occupe d'une affaire qui sera plus lucrative que ce pauvre établissement et au moyen de laquelle je réparerai les pertes que j'ai faites avec vous. « Et comment ?» dit le gros Cointet en riant. Ève regarda son mari pour lui recommander la prudence. « Vous serez mes tributaires, vous et tous ceux qui consomment du papier, » répondit David. « Et que cherchez-vous donc ?» demanda Benoît Boniface Cointet. Quand Boniface eut lâché sa demande d'un ton doux et d'une façon insinuante, Ève regarda de nouveau son mari pour l'engager à ne rien répondre ou à répondre quelque chose qui ne fut rien. « Je cherche à fabriquer le papier à 50% au-dessous du prix actuel de revient, et il s'en alla. » Sans voir le regard que les deux frères échangèrent et par lequel ils se disaient « Cet homme devait être un inventeur, on ne pouvait pas avoir son encolure et rester oisif. Exploitons-le, » disait Boniface. « Et comment ?» disait Jean. « David agit avec vous comme avec moi, » dit Madame Séchard. « Quand je fais la curieuse, il se défie sans doute de mon nom et me jette cette phrase qui n'est après tout qu'un programme. Si votre mari peut réaliser ce programme, il fera certainement fortune plus rapidement que par l'imprimerie. » « Et je ne m'étonne plus de lui voir négliger cet établissement, » reprit Boniface en se tournant vers l'atelier désert où Kolb, assis, frottait son pain avec une gousse d'ail. « Mais il nous conviendrait peu de voir cette imprimerie aux mains d'un concurrent actif, remuant, ambitieux. Et peut-être pourrions-nous arriver à nous entendre. Si par exemple vous consentiez à louer, pour une certaine somme, votre matériel à l'un de nos ouvriers qui travaillerait pour nous sous votre nom, comme cela se fait à Paris. » Nous occuperions assez ce gars-là pour lui permettre de vous payer un très bon loyer et de réaliser des petits profits. « Cela dépend de la somme, » répondit Ève Séchard. « Que voulez-vous donner ? » ajouta-t-elle en regardant Boniface de manière à lui faire voir qu'elle comprenait parfaitement son plan. « Mais quelles seraient vos prétentions ? » répliqua vivement Jean Cointet. « 3 000 francs pour 6 mois, » dit-elle. Eh, ma chère petite dame, vous parliez de vendre votre imprimerie 20 000 francs, répliqua tout doucettement Boniface. L'intérêt de 20 000 francs n'est que de 1 200 francs à 6%. Ève resta pendant un moment tout interdite et reconnut alors tout le prix de la discrétion en affaires. Vous vous servirez de nos presses, de nos caractères, avec lesquels je vous ai prouvé que je savais faire encore de petites affaires, reprit-elle. Et nous avons des loyers à payer à M. Séchard, le père, qui ne nous comble pas de cadeaux. Après une lutte de 2 heures, Ève obtint 2 000 francs pour 6 mois, dont 1 000 seraient payés d'avance. Quand tout fut convenu, les deux frères lui apprirent que leur intention était de faire acériser le bas et les ustensiles de l'imprimerie. Ève ne put retenir un mouvement de surprise. « Ne vaut-il pas mieux prendre quelqu'un qui soit au fait de l'atelier ?» dit le gros cointé. Ève salua les deux frères sans répondre et se promit de surveiller elle-même Cérisé. « Eh bien, voilà nos ennemis dans la place !» dit en riant David à sa femme quand au moment du dîner, elle lui montra les actes à signer. « Bah, dit-elle, je réponds de l'attachement de Kolb et de Marion. À eux deux, ils surveilleront tout. D'ailleurs, nous nous faisons 4 000 francs de rente d'un mobilier industriel qui nous coûtait de l'argent. » Et je te vois 1 an devant toi pour réaliser tes espérances. Tu devais être la femme d'un chercheur d'invention, dit Séchard en serrant la main de sa femme avec tendresse.